Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci de nouveau pour cette invitation, même si elle se fait à travers Zoom, mais on s'y est malheureusement habitué depuis les dernières années. Donc j'espère vraiment qu'on aura l'occasion ouais, de se rencontrer un jour après la sixième, la septième ou la huitième vague. Et donc oui, bah, très rapidement, la présentation que je vais faire aujourd'hui est basée sur mon travail de thèse, donc que j'ai soutenu en 2016 et dont j'ai publié une partie aux presses universitaires de Rennes en 2019. J'en fais pas plus la pub que ça, mais en fait, il est en ligne, donc en libre accès. Donc, je pourrais aussi vous donner le lien, mais c'est toujours bien aussi d'avoir voilà, la possibilité de le... Il était téléchargeable sans problème. L'idée, le point de départ aussi de ce travail, c'est s'inscrit aussi dans un... Alors, je vais pas y revenir dans le détail, mais... J'ai vraiment travaillé sur le travail forcé et la mise au travail des populations au Sénégal et plus largement en Afrique occidentale française, donc l'ancienne AOF, et avec un poids assez important, c'est comment en fait passer derrière une historiographie quand même qui de prime abord est relativement importante sur les questions du travail en Afrique et dans l'Empire français et du travail forcé à travers des travaux de l'historien Babacar Fall ou de Frédéric Cooper. Et mon point d'entrée était de m'intéresser essentiellement en fait aux populations qui étaient soumises au travail forcé, d'essayer de dépasser ce que j'avais appelé être à la fois une historiographie très institutionnelle qui s'intéressait aux réglementations, à comment était organisé le travail forcé, plutôt pour essayer d'analyser en fait comment les populations réagissaient à cela et comment ces réactions permettaient aussi d'adapter et de modifier l'organisation du travail forcé sur le terrain. Et dans un deuxième temps, essayer de dépasser une historiographie que j'ai qualifiée de dakaro-centrée, c'est-à-dire qui était très basée sur Dakar, la capitale de la colonie du Sénégal et capitale de l'AOF aussi, pour essayer de m'intéresser à des zones très peu analysées dans l'historiographie du Sénégal, qui sont essentiellement la Casamance, qui est au sud du territoire sénégalais en dessous de la Gambie, hein, coincé entre la Gambie et la Guinée-Bissau, ancienne Guinée portugaise, et le Sénégal oriental, qui est la partie sud-est du territoire, qui est à la frontière avec le Mali, et pour montrer en fait qu'il y a énormément de formes de travail forcé assez brutales qui ont été mises en place et qui ont perduré. Ça, c'est un deuxième point que je vais aussi essayer d'aborder aujourd'hui. C'est d'essayer de dépasser une chronologie qui a fait date à juste titre, mais qui est une chronologie qui tourne autour de 1946. Ou 1946, on a la loi Houphouët-Boigny, de Félix Houphouët-Boigny, député de la Côte d'Ivoire, qui abolit le travail forcé en 1946. Et j'aimerais en fait revenir, et je suis revenu dans mon travail de thèse, sur cette rupture à la fois fondamentale, mais aussi paradoxale, j'y reviendrai, pour essayer de dépasser cette date-là et de voir en fait si des formes de travail forcé ne perdurent pas après l'abolition théorique et juridique du travail forcé en 1946 et aller donc jusqu'à la fin de la période coloniale, mais même au-delà de l'indépendance, de voir au Sénégal, premier président sénégalais Léopold Sédar Senghor, voir dans le discours et dans les pratiques si on ne retrouve pas des formes de mobilisation, de contraintes dans le recrutement et dans la mise au travail des populations, et d'essayer de réfléchir aux permanences, aux continuités, alors sans déterminisme ou sans analyse mécanique, hein, mais essayer de réfléchir plutôt qu'à des ruptures, aux continuités potentielles dans les discours et dans les pratiques en ce qui concerne le régime du travail et la mobilisation des travailleurs. En fait, j'aimerais revenir sur trois moments clés dans une période assez précise qui est entre 1944 et 1952. Donc trois moments clés dans une période d'après-guerre, avec dans un premier temps en fait revenir sur la célèbre conférence de Brazzaville qui a été organisée du 30 janvier au 8 février 1944 par le Comité français de libération nationale, la France libre qui se trouve en Afrique équatoriale française, où cette conférence de Brazzaville en fait elle est organisée pour déterminer le rôle et l'avenir des colonies françaises qui passaient par une redéfinition des rapports entre la métropole et son empire. Et j'aimerais revenir avec vous en fait sur les idées un peu directrices de cette conférence qui proposait à la fois la mise en place d'une économie dirigée et planifiée, mais qui réfléchit en fait assez peu au régime de la main-d'œuvre. Et qui en fait propose pas véritablement de réflexion sur le régime du travail en situation coloniale. Donc ça, c'est le premier moment que j'aimerais analyser avec vous. Le deuxième moment, c'est la loi Houphouët-Boigny en tant que telle, qui est donc sur l'abolition du travail forcé, qui est signée le 11 avril 1946, qui, comme je le disais il y a quelques minutes, marque à la fois une rupture fondamentale mais paradoxale, parce qu'elle était censée abolir des pratiques, donc le travail forcé, qui, en théorie, ne devaient plus exister depuis la ratification de la Convention sur le travail forcé de 1929, organisée par le BIT, que la France, en tant qu'empire colonial, avait signée en 1937. Donc voilà, à la fois rupture fondamentale, mais aussi paradoxale. Et par ailleurs, j'y reviendrai en détail, mais cette loi, Houphouët-Boigny, ne proposait aucune définition claire du travail forcé, laissant le champ libre à certains administrateurs et colons d'utiliser en fait les carences de cette loi pour continuer à utiliser la contrainte dans le recrutement des travailleurs. Et enfin, le dernier moment, c'est de m'intéresser au débat sur le Code du travail. Donc, on parle de 1944 pour la conférence de Brazzaville, et je ferai terminer ma présentation sur 1952, qui est en fait la promulgation du Code du travail d'outre-mer. Et tous les débats sur ce Code du travail qui ont eu lieu dès 1944 jusqu'en 1952 révèlent très bien l'ambiguïté en fait au cœur du projet colonial concernant le régime du travail. C'est qu'à la fois, on a une volonté affichée des autorités d'améliorer le statut du travailleur africain, de le faire participer aux décisions économiques et d'abolir le travail forcé, donc après 1944, mais dans le même temps, on a aussi la permanence d'une certaine obsession par des administrateurs coloniaux ou des colons qui persistaient à penser que seule la contrainte dans le recrutement de la main-d'œuvre pouvait garantir le bon fonctionnement politique et économique des territoires. Donc, en fait, ça aussi, un dernier élément quand même de contexte plus général, c'est qu'on est dans un contexte aussi international d'après-guerre où une nouvelle page en fait se tourne sur la scène internationale après le second conflit mondial, et la notion de développement fait son apparition et devient très vite un thème central de la politique coloniale d'après-guerre et des revendications des mouvements politiques africains. Et on le voit très bien en fait en germe à la conférence de Brazzaville de 1944. Et d'ailleurs, cette idée-là accompagne aussi les réformes politiques et sociales qui vont être mises en place en 1946 dans l'Empire colonial français, j'y reviendrai. On a un discours en fait modernisateur, avec plein de guillemets, hein, mais qui se met progressivement en place, fondé sur un nouvel argumentaire qui appelle non plus à la mise en valeur des colonies. Donc, c'était vraiment la mise en valeur des colonies, c'était le terme élaboré par Albert Sarraut, ministre des colonies dans les années 20, qui c'est programmatique, il fallait mettre en valeur les colonies. On a cette mise en valeur des colonies qui s'efface derrière les notions de développement économique et social des populations. Et donc, sur le terrain, ça se traduit par l'établissement de plans de développement et de fonds d'investissement, ce qui n'était pas le cas avant. Je rappelle rapidement que les colonies françaises étaient autonomes financièrement, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun budget de la métropole qui arrivait. C'était l'impôt qui faisait fonctionner les colonies, ou qui ne faisait pas fonctionner les colonies, pour le coup. Et là, avec l'établissement de plans de développement et de fonds d'investissement, la métropole a investi. Elle met en place le FIDES, le Fonds d'investissement et de développement économique et social, en 1946. Et elle met en place le FERDES, pour le développement plus local, en 1949. Alors, le FERDES, c'est le Fonds d'équipement rural et de développement économique et social. Donc, en fait, on a le travail forcé, donc, qui était un peu la pierre angulaire de la politique économique avant 44, on va dire, qui s'efface, en tout cas le terme, le travail forcé ou obligatoire, s'efface progressivement des discours au profit d'une rhétorique appelant à la participation volontaire et bénévole des populations pour le développement des colonies. Et je ne rentrerai pas dans le détail, mais on pourra en discuter. Ce type de procédé discursif, en fait, relève plutôt du fantasme que d'une réalité concrète. Et en effet, on peut se poser la question de savoir comment il était possible d'imaginer que des populations contraintes pendant des années à travailler de manière forcée, par un pouvoir étranger, donc le pouvoir colonial, décide dans un mouvement collectif et spontané de participer volontairement et bénévolement à une version remaniée de la mise en valeur, nouvellement labellisée développement économique et social des colonies. Donc voilà pour le contexte plus global. Donc mon premier point, c'est revenir sur la conférence de Brazzaville et le régime du travail, où on a en fait une volonté de la part des organisateurs, donc du CFLN, installé à l'époque à Alger. C'était important d'organiser cette conférence à Brazzaville pour souligner aussi le caractère novateur des débats et du bilan à faire et du nouveau départ à préparer pour se positionner en rupture des politiques précédentes, donc à la fois les politiques de Vichy et la politique du Front populaire dans les colonies, et tourner une nouvelle page de la politique coloniale française. Alors, dans mon travail de thèse, alors ça a été pas mal évoqué par Cooper dans son bouquin, mais l'idée aussi, c'est de déconstruire un peu le côté mythiquement libérateur des discussions de Brazzaville. Et on le voit très bien, en fait, en matière de travail, c'est que bien que la conférence de Brazzaville, elle statue, je vais le détailler là dans un moment, sur un retour progressif au travail libre, elle maintient, en fait, dans les dispositions de la conférence, elle maintient des dispositions qui laissent la possibilité aux autorités de réquisitionner des travailleurs pour participer aux chantiers publics et privés de la fédération. Donc, le régime du travail, spécifiquement la question de la main-d'œuvre, est examinée en février 1944, pendant la conférence de Brazzaville, par la commission qui s'appelait la commission de la coutume familiale et sociale du travail. Et les débats commencent directement à se focaliser sur la question du travail forcé et obligatoire, donc rappelant quand même que c'était bien la pierre angulaire du régime du travail dans les colonies. Et voilà, tout le monde est d'accord pour énoncer les nombreuses critiques sur les abus et les excès de ce mode de recrutement. Et le discours le plus retentissant, c'est celui d'André Latrille, qui est un ancien administrateur colonial du Tchad, gouverneur de la Côte d'Ivoire au moment des débats, qui dénonce avec virulence le système de contraintes et les abus exercés. Et il propose, dans ses conclusions, deux directions. Soit la politique coloniale maintient le statu quo et continue de se reposer sur le travail forcé, et je le cite, en les masquant, en tout cas en masquant les pratiques de travail forcé par, donc je le cite, des formules ou des textes n'ayant qu'une valeur théorique, comme cela avait été le cas d'ailleurs dans le passé. Soit les autorités prennent la responsabilité de, je le cite encore, déclarer inadmissibles humainement, politiquement et même économiquement les pratiques employées jusqu'à ce jour. Et malgré ces débats, en fait, la position adoptée, elle préconise certes un retour à une, je le cite encore, une saine liberté du marché du travail, mais elle laisse dans le même temps les employeurs les délais nécessaires, en fait, pour que les employeurs s'adaptent à cette nouvelle situation. Et c'est là, en fait, un point essentiel des discussions sur le régime du travail, c'est que si tous les administrateurs présents à cette conférence sont unanimes pour dénoncer les conséquences désastreuses du travail forcé et affirmer, comme ça l'est, le principe de la supériorité absolue de la liberté du travail, ils s'accordent néanmoins sur le fait qu'un retour immédiat au travail libre n'est pas possible dans l'état actuel, et ils statuent sur un retour progressif dans les 5 prochaines années. Et j'aimerais revenir avec vous sur un projet avorté qui s'est inscrit dans ce cadre-là, qui est une des résolutions de la conférence de Brazzaville. Alors, il n'a pas été mis en place parce que les députés africains qui vont participer aussi à la vie politique vont aller contre cette idée-là et vont promulguer aussi la loi abolissant le travail forcé. Mais dans la conférence de Brazzaville, une des idées qui a été mise en place pour garantir une sorte de transition entre le régime de travail forcé à un régime complètement libre, c'est la mise en place de ce qu'ils ont appelé le service obligatoire de travail, le SOT, à ne pas confondre avec le service de travail obligatoire, mais il y a quand même beaucoup de parallèles. C'est donc un SOT qui se présentait comme une obligation au travail d'une année pour les populations indigènes, avec des guillemets, âgées de 20 à 21 ans. Et l'idée était, en fait, de mettre au travail des populations qui étaient considérées sans activité fixe et de les faire travailler sur les chantiers publics et privés des colonies, où l'idée, c'était vraiment de participer, et là on est toujours dans le discours un peu civilisateur par le travail, de les faire participer à la fabrique un peu du travailleur, c'est-à-dire voilà, civilisé par le travail. Et au niveau de l'organisation concrète du service, l'idée, c'était, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'abandonner une forme de travail forcé très connue dans l'Empire français, qui était la deuxième portion du contingent, c'est-à-dire que les populations qui étaient soumises au service militaire, soit ils étaient recrutés dans la première portion où ils faisaient leur service militaire, soit ils étaient réservistes. Et en fait, pendant toute la période coloniale, les réservistes étaient utilisés sur les chantiers publics et privés. Donc, c'était une forme de travail forcé militaire à caractère civil, parce que ça fonctionnait sur des chantiers publics. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Léopold Sédar Senghor intéressante, c'est qu'on parle beaucoup des tirailleurs sénégalais pour les militaires africains, et Léopold Sédar Senghor parlait de tirailleurs lapel pour la deuxième portion du contingent, parce qu'ils n'avaient pas un fusil à l'épaule, mais ils avaient une pelle pour travailler sur les chantiers publics. Et donc, en gros, c'est inspiré quand même de la seconde portion du contingent, où l'idée, c'était d'ailleurs d'utiliser la réglementation de la seconde portion pour ce service obligatoire de travail, mais d'en faire juste une forme complètement civile et non plus militaire pour recruter beaucoup plus de travailleurs. Et il y a dans les projets qui sont aux archives sur ce SOT, il y a même des calculs savants des administrateurs qui montrent très bien que la seconde portion du contingent, pendant toute la période coloniale, il y a à peu près 15 000 personnes qui ont été recrutées. Et avec le SOT, les autorités tablaient plutôt sur un effectif annuel de plus de 60 000 hommes pour toute la fédération. Donc la différence était notable et ils y voyaient vraiment le SOT comme un filet de sécurité, parce que les autorités avaient une crainte majeure qui était de libérer le travail et donc de manquer de main-d'œuvre suffisante pour faire fonctionner les chantiers publics et privés des colonies. Et donc, ils voulaient s'assurer une sorte de pool de main-d'œuvre, un bassin de main-d'œuvre qu'ils pouvaient réquisitionner sans problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré l'enthousiasme de certains administrateurs, le SOT n'a jamais été mis en place. Alors, premièrement, au niveau des symboles, en fait, il y a les similitudes avec le sinistre service du travail obligatoire en France étaient nombreuses et d'ailleurs étaient assez. Pour une conférence de Brazzaville organisée par la France Libre, pour le dire rapidement, de mettre ça en place, il y avait, on va dire, des similitudes qui étaient assez inopportunes, on va dire. Et d'ailleurs, Félix Houphouët-Boigny, qui sera l'instigateur de la loi abolissant le travail forcé, adressa une critique virulente à ce projet-là, au SOT, et je le cite, il dit « Je ne puis m'empêcher de penser qu'après tout, ce sont bien un peu les mêmes procédés que nous reprochons si fort à l'envahisseur chez nous, donc il parle des Allemands en France, que nous appliquons ailleurs aux envahis. Les Européens venus de France font un rapprochement immédiat avec les méthodes du service obligatoire imposées par nos ennemis aux hommes et aux femmes de France, ils ne dissimulent pas leur indignation de cette chasse à l'homme organisée. » Donc, il y avait, voilà, je le répète, mais il y avait dans ce projet une contradiction majeure, c'est que beaucoup d'administrateurs présents à la conférence de Brazzaville étaient d'ardents partisans de la France libre, et à ce titre avaient eu l'occasion d'ailleurs de condamner avec force le STO instauré en métropole par le régime de Vichy. Et donc, la question, c'est comment expliquer qu'ils étaient prêts à instaurer un système similaire, entre guillemets, dans les colonies pour les sujets coloniaux. Donc, pour conclure sur cette phase de la conférence de Brazzaville, c'est sous couvert d'affirmer la primauté du travail libre, la conférence de Brazzaville s'inscrivait dans la continuité des politiques passées. C'est-à-dire que, bien que la conférence ait eu le mérite de mettre sur la table la question du retour progressif à un marché libre du travail, les mentalités coloniales étaient loin d'être prêtes à évoluer dans ce sens. Et les mesures proposées visaient avant tout à continuer de garantir aux colonies des leviers légaux pour le recrutement de la main-d'œuvre nécessaire au développement économique des territoires. Et je vais vous donner un autre exemple qui est assez intéressant, en tout cas significatif. Alors, je vais rapidement, hein, donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, on y reviendra, mais j'essaie d'être le plus rapide sur les éléments. C'est que suite à la conférence de Brazzaville, il y a aussi un décret qui a essayé de mettre en place un code du travail dès juin 1945. Et en fait, le décret a été institué et il a institué un code du travail indigène qui devait rentrer en vigueur au 1er janvier 1946 et qui tentait de concilier en fait la législation du travail existante en la complétant avec les avancées de la conférence de Brazzaville concernant le retour progressif au travail libre. C'est-à-dire que dans le code du travail, il reprenait donc la législation de 1925, on pourra rentrer dans le détail, mais ce n'est pas forcément très intéressant, mais l'épaisse législation sur le travail dans les colonies, et de rajouter des articles, donc l'article 1, 3 et 9, qui consacraient clairement la liberté du travail. Et pour le ministre des colonies de l'époque, ce code, et je le cite, abolissait ainsi, conformément aux dispositions de la Convention de Genève de 1930, toute forme de travail obligatoire. Sauf que c'était bien ça le problème, c'est qu'en fait, cette mesure était loin de faire l'unanimité dans certains milieux coloniaux, qui considéraient en fait toujours les populations africaines comme rétives à toute forme de travail et qui aimaient bien les réduire en fait à une sorte de peuple-enfant paresseux. Et je vais vous citer un témoignage lors de la conférence économique des administrateurs coloniaux de 1945 qui dit, je cite, « L'indigène, dans 95% des cas, est encore un grand enfant. il n'a que peu de besoins, trouve sa subsistance assez facilement et n'a pas de plan de vie bien net. Après le rude effort, car il fut rude, qu'il a soutenu pendant 3 ans, il ne comprend pas la nécessité de poursuivre sur sa lancée. Pour lui, la liberté de travail, définie et adoptée à la conférence de Brazzaville, veut souvent dire liberté de paresse. Donc, tout est dit dans cette courte citation. Et donc, les milieux d'affaires coloniaux, comme certains administrateurs, voyaient le retour strict à la liberté du travail proposé donc par ce décret qui instituait un code du travail indigène, comme un risque en fait, de ne plus pouvoir trouver la main-d'œuvre nécessaire au fonctionnement de leur entreprise, puisqu'il n'était plus possible de faire appel à la réquisition de main-d'œuvre. Et donc, les planteurs, les milieux d'affaires coloniaux et certains administrateurs se réunissent après l'institution de ce décret, en fin 1945, à Douala, au Cameroun, pour des états généraux de la colonisation. Ils rejettent en bloc le décret et pour rappeler que le Code du travail devait affirmer certains principes indérogeables, comme celui de considérer le travail comme un devoir social obligatoire et que, je cite, que l'indigène, tout en étant libre de choisir son travail, soit tenu à une activité minimum déterminée par des mesures précises. Et donc, il propose un contre-décret qui est une sorte de décret permettant la réquisition de la main-d'œuvre pour compenser la libéralisation du marché du travail. Et au final, ces deux décrets ne seront jamais mis en place pour une raison assez simple, qui est une lacune juridique de taille, c'est que le code du travail, donc ce décret instituant un code du travail indigène, ne s'appliquait en effet qu'à la population indigène, avec des guillemets, dans des territoires où cohabitaient, selon le droit colonial, des citoyens français et des sujets indigènes français. Et donc, pour en fait, cette raison-là, qui est purement juridique, il n'a jamais pu être mis en place. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce projet un peu morné révèle encore une fois l'ambiguïté centrale au sein des milieux coloniaux entre la volonté de façade d'amélioration du statut du travailleur africain et l'affirmation de la liberté du marché du travail d'une part, et la permanence de certaines mentalités qui voyaient dans le travail forcé la possibilité de s'assurer l'approvisionnement en main-d'œuvre nécessaire au développement économique et social des colonies. Et donc, pour conclure sur cette conférence de Brazzaville, alors que la conférence de Brazzaville voulait tourner la page et proposer une nouvelle politique coloniale, force est de constater que les nombreuses permanences, tant dans les mesures envisagées que dans les mentalités, il est forcé de constater qu'il y a beaucoup de permanences en fait, avec les politiques passées. Et en matière de travail, les mesures timorées proposées en 1944 et le projet avorté de Code du travail vont pousser les élus africains à prendre les choses en main, en quelque sorte, et tenter de résoudre une bonne fois pour toutes la question du travail forcé. Et cette lutte politique, elle va déboucher sur la loi Houphouët-Boigny d'avril 1946, abolissant au niveau juridique toute forme de travail contraint ou obligatoire. Merci. Alors, j'arrive à mon deuxième point qui sera un peu plus court, mais c'est revenir sur l'abolition du travail forcé et de la loi Houphouët-Boigny. Pour redonner des éléments de contexte, donc la loi Houphouët-Boigny arrive en 1946 et qu'il y a plusieurs réformes politiques et sociales qui voient le jour en 1946, donc comme je l'ai dit à l'instant, grâce à la pression des élus africains qui sont élus à l'Assemblée nationale depuis 1946 et qui imposèrent en fait de nouveaux thèmes de discussion lors des débats à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est faut s'imaginer quand même, voilà, ils soulèvent des questions qui n'ont jamais été véritablement soulevées à l'Assemblée nationale. Et donc, 1946, c'est connu comme l'année des réformes dans les colonies. Alors, premièrement, il y a déjà il y a deux lois, on va dire, qui sont importantes, la loi Houphouët-Boigny et surtout la loi Lamine Gay, qui est un député. C'est la loi de mai 1946 qui, en fait, attribue la citoyenneté française à tous les anciens sujets coloniaux. Donc, avant, le système colonial était... on va dire la pierre angulaire répressive, c'était le système de l'indigénat qui instaurait une politique de différenciation entre les citoyens français et les sujets indigènes coloniaux qui étaient donc soumis au régime de l'indigénat, qui était un régime de sanctions administratives. Je ne rentre pas trop dans les détails. Les citoyens français ou assimilés, c'était les citoyens français, donc les Français de la métropole, mais aussi pour le coup au Sénégal, il y avait quatre... villes, les quatre communes, Gorée, Rufisque, Dakar et Saint-Louis, où les personnes étaient citoyennes françaises. Donc, c'était pas des sujets coloniaux, c'était des populations sénégalaises, mais citoyennes françaises. Bref, je ne rentre pas trop dans les détails. La loi Lamine Gay supprime cette politique de différenciation en attribuant la citoyenneté française à tous les anciens sujets indigènes. Et par là même, en fait, supprime le régime de l'indigénat. Et j'aime beaucoup cette formule de Frédéric Cooper, qui a fait un livre sur la citoyenneté française, qui s'inspire aussi de Hannah Arendt, c'est qu'avec la loi Lamingey, en fait, les sujets africains obtenaient le droit d'avoir des droits. C'est-à-dire qu'en supprimant la distinction citoyen-sujet, ben voilà, elle permettait à toutes les populations des colonies de revendiquer des droits. Et c'est dans ce contexte-là aussi que le 11 avril 1946, la loi Houphouët-Boigny abolit le travail forcé. Cette loi, elle est le résultat d'une lutte de plusieurs mois d'élus africains, donc pas que Félix Houphouët-Boigny qui était député de Côte d'Ivoire, d'autres élus africains aussi, et d'ailleurs des députés métropolitains, et aussi Aimé Césaire, qui ont en fait fait un lobbying énorme pour imposer l'abolition du travail forcé. Et l'idée, c'était, alors c'est intéressant de suivre aussi les débats à l'époque sur cette question-là, c'est que l'hémicycle de l'Assemblée nationale constituait pour ces nouveaux députés une tribune politique de premier choix pour engager un réquisitoire à charge contre le travail forcé. Et je vais vous donner juste un élément, un bout de discours de Houphouët-Boigny à l'Assemblée nationale le 1er mars 1946, qui dit... En 1930, Diagne, donc Blaise Diagne, qui a été le premier député noir du Sénégal, prétendait fixer à 10 ans la durée du travail obligatoire éducatif. La conférence de Brazzaville, 14 ans plus tard, en recommanda la suppression au bout de 5 ans, étape par étape. Cette suppression progressive a complètement échoué. Il est maintenant question d'en reporter la date à 2 ans. Or, on ne peut plus admettre la suppression du travail forcé quand le condamnant. On entretient par un mal, on le guérit, on n'entretient pas un mal, on le guérit radicalement. Et en fait, cette citation que j'ai très mal lue, elle déconstruit toute la rhétorique coloniale, en fait. Et en premier lieu, celle de ce que j'ai qualifié de civilisation par le travail, c'est-à-dire que le rôle éducatif du travail obligatoire, qui était en tout cas défini comme tel, et derrière lequel la politique coloniale s'abritait, elle ne fonctionnait pas et elle devait être dépassée et elle devait être supprimée. Et c'est ça qui était au cœur des débats à l'Assemblée nationale pour l'abolition du travail forcé. Et les députés africains, en fait, voulaient rompre avec les solutions en demi-teinte proposées par la conférence de Brazzaville et imposèrent à l'Assemblée l'idée, en fait, d'un retour strict, sans condition, au travail libre et à travers l'abolition du travail forcé. Donc, on se retrouve avec cette loi du 11 avril 1946, qui est donc une loi assez courte de 3 articles et qui est définie par Houphouët-Boigny, qui en est le porteur, comme cela, je le cite encore une fois. « En supprimant le travail forcé, une occasion unique nous est offerte aujourd'hui de prouver au monde que la France des droits de l'homme et du citoyen, la France de l'abolition de l'esclavage, reste toujours égale à elle-même et ne saurait contester ni limiter la liberté d'aucun des peuples vivant sous son drapeau. » Donc, on a une loi en 3 articles courts qui interdit de façon absolue le travail forcé. Je ne rentre pas dans les détails de cette loi, en tout cas, je ne vous la lis pas. Mais ce qui est intéressant, et je répète ce que j'ai dit en introduction, c'est que c'est, au niveau juridique, une rupture à la fois fondamentale mais paradoxale, parce qu'en 1937, la France, l'Empire français, avait signé la convention abolissant le travail forcé, la convention de Genève de 1929. Et donc, en théorie, la loi Houphouët-Boigny ne fait qu'abolir des pratiques qui étaient déjà, en fait, ne plus censées exister depuis 1937. Mais voilà, il en était autrement. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que cette loi, elle ne proposait pas de définition claire du travail forcé, elle laissait le champ libre, en fait, à certains administrateurs et à certains colons d'utiliser les carences de cette loi pour tenter de réintroduire de manière détournée la contrainte dans le recrutement des travailleurs. Et un exemple parmi d'autres, c'est la seconde portion du contingent. La seconde portion du contingent, qui était donc la forme militaire de travail forcé, elle sera utilisée jusqu'en 1951. Certaines formes de prestations, c'est-à-dire d'impôts en nature pour la rénovation des routes au Sénégal, théoriquement, elle aurait dû être abolie en 36, 37 sous le Front populaire et en 46. Et ben, moi, j'ai des traces de formes de prestations jusqu'à la veille de l'indépendance. Donc voilà, et qui est motivée par des administrateurs coloniaux qui considèrent qu'ils n'arrivent pas à recruter les travailleurs pour la rénovation des routes et donc qui préfèrent utiliser les anciennes méthodes. Et un point important maintenant pour revenir aussi sur la question du droit du travail, c'est que les avancées politiques, économiques et sociales actées par la loi Houphouët-Boigny, mais aussi par la loi Lamine-Gay, a eu pour effet en fait de créer un vide juridique total et profond en matière de législation du travail, parce que tous les ressortissants des territoires colonisés étaient devenus citoyens, et le travail obligatoire étant supprimé, en fait tous les textes antérieurs sur le travail indigène, donc il n'y avait plus d'indigènes, donc tous les textes antérieurs sur le travail indigène, sur le travail obligatoire, devenaient inapplicables juridiquement. Et donc l'administration coloniale se trouvait dans l'incapacité, d'une certaine manière, à contrôler la main-d'œuvre et d'en assurer la protection. Et donc ces lois, dans le contexte général, c'est que la loi Gay et Houphouët-Boigny ont bousculé l'agenda colonial et les autorités, elles ont été amenées en fait à repenser le régime du travail dans son entier. Ce qu'elles auraient dû faire en 1944, en tout cas c'était l'objectif de la conférence de Brazzaville, et ce qui n'a pas été fait, et c'est les élus africains qui ont poussé ça à l'agenda. Et en attendant de combler ce vide juridique par le Code du travail qui va être publié en 1952, je vais y venir, c'est l'inspection du travail en fait qui va se retrouver à garantir la paix sociale. Florence Renucci, qui est là, pourra en dire beaucoup plus puisqu'elle s'est spécialisée sur cette question. Mais voilà, donc on est dans ce contexte-là. Maintenant, le point qui m'intéresse, c'est de voir comment on arrive, ou en tout cas quels sont les enjeux qui permettent d'arriver à l'application, en tout cas à la publication du Code du travail d'outre-mer en 1952. Donc, je vais vous évoquer plusieurs étapes, mais j'aimerais surtout aussi me focaliser sur la relation qu'entretient les débats sur le Code du travail de 52 et le travail forcé, qui est jamais en fait loin. Et donc, c'est voilà, de mettre en miroir la question du travail forcé obligatoire et la promulgation du Code du travail d'outre-mer de 52. Donc déjà, quelques éléments de contexte pour arriver à ce Code du travail de 1952, le Code du travail d'outre-mer. On a des débats en fait, qui se déroulent sur de près de 6 ans, en fait, entre 1944-1946 jusqu'en 1952, et qui révèlent aussi l'évolution lente, mais des mentalités dans cette période charnière. On a un élément assez important, c'est qu'en 1947, en fait, entre 47 et 48, on a le déclenchement d'une grève, la grève des cheminots, qui secoua l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et à l'époque, Marius Moutet, qui était le ministre des colonies, va publier, après cette grève, un décret, le 17 octobre 47, qui institue un code du travail dans les territoires, alors je cite, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, autre que l'Indochine. Et en fait, ce code du travail se voulait être en rupture avec celui de juin 1945, dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'il s'appliquait aussi bien aux Européens qu'aux autochtones, entre guillemets, ce qui était le problème du premier code de 1945. Et le texte était appuyé par les organisations ouvrières et syndicales, ainsi que par les représentants élus de l'AOF. Et ce code voulait en fait combler le vide juridique en matière de législation du travail engendré par les bouleversements politiques et sociaux de 1946, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et l'idée de ce code Moutet se voulait être en fait une sorte de texte préparatoire qui permettrait plus tard d'établir un projet de code du travail définitif. Et il proposait vraiment des avancées en fait notables pour l'époque dans le domaine de la législation du travail et dans le domaine social, des conventions collectives qui n'avaient jamais existé avant dans les colonies, l'égalité des salaires, la liberté de l'action syndicale, l'égalité de tous les citoyens, donc à la fois citoyens des colonies, mais citoyens aussi français, en tout cas de la métropole. Donc voilà, l'égalité de tous et toutes. Cependant, le projet de Marius Moutet, de nouveau, reçut la défiance des milieux d'affaires coloniaux qui critiquaient en fait ces avancées sociales proposées et surtout aussi la méthode de promulgation, parce que là encore, ça fonctionnait par décret, et c'est-à-dire sans débat aux deux assemblées. Je vais donner quelques éléments de contexte d'histoire politique française, mais qui en tout cas sont importants pour comprendre le cheminement vers le Code du travail en 1952. C'est que quelques mois après 1947, le gouvernement, donc à l'époque Ramadier, est renversé et Moutet, j'allais dire, est supprimé en tant que ministre des colonies. Il n'est pas supprimé, le pauvre, mais il est remplacé par Paul Coste-Fleuret. Et l'exécution de son décret donc, est alors suspendue. Et le code Moutet ne va en fait être jamais appliqué, mais il va permettre en fait d'alimenter les débats parlementaires qui vont être lancés par le nouveau ministre des colonies, Coste-Fleuret, pour aboutir en 1952 au Code du travail d'outre-mer. Donc, le nouveau ministre des colonies, il dépose un nouveau code, en tout cas une législation pour un code du travail d'outre-mer qui s'inspire beaucoup du code Moutet. Et les discussions parlementaires sont très très longues, en fait près de 5 ans, avec des allers-retours entre les différentes chambres parlementaires. Et au final, il y a un texte qui a adopté à l'Assemblée nationale en première lecture le 30 avril 51, après près de 18 séances de débat. Mais le Conseil de la République propose près de 220 amendements, modifiant en fait complètement le projet initial. Le projet est de nouveau envoyé à l'Assemblée nationale en février 1952. Ce code du travail remanié, il suscite l'opposition très forte des élus africains et des organisations syndicales qui ne se retrouvaient plus du tout dans ce code, qui avait été complètement vidé de sa substance. Et donc, les élus africains et les organisations syndicales lancent une grève générale en novembre 1952, très suivie en AOEF. Et donc là encore, le texte est de nouveau remanié, et c'est dans ce contexte très électrique, sur près de 6 ans, que fut finalement voté le 23 novembre ce nouveau code du travail d'outre-mer, et qui est en fait promulgué le 15 décembre 1952. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des dispositions générales introduites par le code du travail. Il y a une littérature assez importante sur ces questions. Donc, il y a Cooper, mais il y a aussi Omar Gay, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de se focaliser sur les discussions autour de la question du travail forcé et obligatoire dans le Code du travail. Alors, tout d'abord, le premier article du Code du travail de 52 définissait la catégorie de population auquel était appliqué le Code du travail. Et je cite cet article, « est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quel que soit son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé. » Et donc, la première phrase, c'est « est considéré comme travailleur ». En fait, la notion de travailleur, elle a été privilégiée à celle de salarié, car elle englobait en fait toutes les catégories de travail, quel que soit leur mode de rémunération. Alors, cependant, certaines catégories, comme les travailleurs coutumiers, les apprentis, les fonctionnaires, n'étaient pas inclus par la nouvelle législation. Mais il faut garder en tête que ce premier article est central parce qu'il informait sur le champ d'application du code. Et c'est un point qui nous intéresse particulièrement parce qu'il allait aussi déterminer les discussions en fait, de l'article 2 de ce code qui rappelait l'abolition du travail forcé. Et si le travail forcé était supprimé dans le cadre strict du champ d'application du Code du travail, on pouvait craindre en fait, que les catégories non régies par le Code du travail puissent être, quant à elles, soumises au travail forcé obligatoire. C'est un peu technique ce que je suis en train de dire, mais en fait, l'article 1 a été déterminé par le champ d'application de qu'est-ce qu'on considérait, quel type de population et de catégorie devait être non soumise au travail forcé. Et il y a eu d'énormes négociations en fait, sur les termes à employer pour au maximum en fait, éviter les carences juridiques ou d'interprétation dans le code pour éviter en fait, que des petits malins puissent utiliser le code un peu de manière détournée pour remettre en place des formes de réquisition ou de mobilisation forcée de la main-d'œuvre. Alors, pour revenir à l'article 2, en fait, on a d'énormes débats sur cet article 2 sur comment instituer l'abolition du travail forcé, comment l'écrire. On a énormément de débats entre des milieux coloniaux qui voudraient voir des leviers, qui voudraient mettre en place des leviers de réquisition de la main-d'œuvre dans le Code du travail et d'autres qui voulaient une application stricte de la loi sur l'abolition du travail forcé. Alors, on a les défenseurs donc, d'une abolition absolue du travail forcé qui ne voulaient pas mettre la loi du 11 avril 1946 dans le Code parce que, comme on l'a évoqué, il y avait de nombreuses lacunes juridiques qui permettaient de contourner la loi. Et je donne un exemple, mais aucun régime de sanction dans la loi Houphouët-Boigny de 1946 n'avait été mis en place pour réprimer les contrevenants à la loi. C'est-à-dire qu'il y avait une loi qui était appliquée, mais si on continuait le travail forcé, il n'y avait pas de punition ou d'amende ou de sanction qui était mis en place. Et bien, dans le Code du travail de 52, l'article 228 du Code du travail pallia à ce vide en punissant d'une amende et d'une peine de prison les auteurs d'infractions sur l'interdiction du travail forcé. D'autre part, ceux qui ne voulaient pas mettre la loi de 1946 abolition du travail forcé dans le Code du travail Le deuxième argument, c'est que la loi du 11 avril 1946, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne donnait aucune définition précise du travail forcé, donc empêchant dès lors de fournir un cadre réglementaire à la qualification et à la répression de l'infraction. Et donc, le projet de code examiné, pour le code de 52, en fait, voulait introduire la définition donnée par la conférence de Genève de 1929, donc qui a été la conférence organisée par le BIT, qui a donné une définition, on va dire, extensive du travail forcé. Et c'est celle qui va être utilisée dans le code du travail de 52, je la cite, c'est que le terme de travail forcé obligatoire désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de son plein gré. Donc, c'est assez clair. Et donc, en donnant une définition large du travail forcé, l'article 2 pouvait s'appliquer à toutes les catégories de travailleurs, y compris celles non concernées par le code du travail. Et ça, c'était un point important pour les organisations syndicales et les élus africains. Et je vais citer Lamine Gueye, qui a participé au débat, qui insista sur le fait que ce n'était pas, et je le cite, pas parce qu'un travailleur n'était pas salarié ou qu'il était régi par la coutume, qu'on pouvait le contraindre à travailler malgré sa volonté. Donc ça, c'est un élément important. De plus, l'article 1 de la loi de 1946 ou Fouette-Boigny fut aussi ajouté, c'est en particulier une partie de la phrase, c'est l'interdiction de façon absolue. Et cet ajout avait son importance puisqu'il laissait en fait aucune interprétation possible permettant de contourner cette mesure. Parce que là aussi, alors je vais donner un autre élément technique, mais c'est que la convention de 1929 abolissant le travail forcé, elle était très claire dans la définition de ce qui était entendu par travail forcé, mais cette convention, en fait, autorisait certaines formes de travail obligatoire. Et certains députés, pendant les discussions pour le code du travail de 52, voulaient mettre en fait une grande partie de la convention de 1930 permettant en fait d'autoriser certaines formes de travail contraint, comme le travail militaire, comme d'autres formes de travail. Et donc là encore, il y avait une négociation pour garder un cadre strict d'abolition claire et nette du travail forcé. Et donc cet ajout d'interdiction absolue a fait réagir les députés, en tout cas les députés les plus conservateurs ou ceux qui voulaient garantir la réquisition de main-d'œuvre dans les colonies. Et je vais vous donner un exemple, c'est qu'il y a un amendement des députés du Rassemblement du peuple français, donc le RPF, Malbranche, Castellani et Bayrou. Alors, j'imagine que ça doit être, j'imagine le père ou le lien avec François. Mais un amendement est proposé en première lecture et avait, comme je viens de vous le dire, en fait, pour finalité d'ajouter les dispositions de la Convention de Genève qui admettaient certaines formes de travail forcé, à savoir, et je cite la Convention de Genève, « tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire », donc c'était la seconde portion du contingent, « tout travail ou service faisant partie des obligations civiques », alors ça c'est tellement large qu'on peut tout mettre dedans, ou « tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire », donc le travail pénal. Et enfin, les menus travaux de village. Cette convention de Genève, on pourra y revenir dans la discussion, elle est tellement large qu'en fait, on peut tout mettre, on peut tout justifier comme forme de travail forcé autorisé. Donc, les députés, avec cet amendement, sous couvert de l'obligation faite à tous les citoyens de concourir à des travaux indispensables, justifiaient en fait cet amendement par la nécessité de garder encore et toujours des leviers législatifs pour le recrutement de la main-d'œuvre en cas de pénurie, en cas de mauvaise volonté de la part des populations, considérées encore en 1952 comme des populations naturellement indolentes. Et donc, voilà, pour certains élus, les anciennes méthodes avaient du mal à être réformées. Alors, je vous passe encore les détails pour en lancer la discussion, mais ces dispositions, en tout cas, cet amendement a reçu un accueil très défiant de la part des milieux ouvriers et syndicaux africains, ainsi que chez les élus africains à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, Lamine Gueye, encore lui, à l'Assemblée, considérait, et je le cite, que si par malheur l'Assemblée votait des possibilités de travail forcé, elle n'aurait pas besoin de poursuivre plus en avant la discussion de ce code du travail, car elle l'aurait déjà, par avance, dépouillé de tout son contenu. Donc au final, l'amendement il va être rejeté à une large majorité. Et donc l'article 2 qui consacrait l'abolition et l'interdiction absolue du travail forcé dans un cadre large marquait une évolution majeure, parce qu'en inscrivant dans le code du travail l'interdiction du travail forcé, les autorités en fait envisagé par là même l'idée que le travail pouvait se faire sans contrainte et participer à une évolution économique dirigée vers le bien-être des populations. Et ça peut paraître être une évidence, quoique dans le contexte actuel, je ne suis pas sûr, mais à l'époque, ça ne l'était absolument pas. Donc, c'est une avancée majeure. Donc, pour conclure sur ce code du travail et aussi conclure sur cette présentation, c'est que les discussions sur le code du travail ont révélé les lignes de fracture et les tensions entre les différents milieux coloniaux et africains. Les débats qui se cristallisèrent autour du vote du code du travail de 1952 eurent une portée et une résonance politique, économique et sociale très large, et ils finissaient par la même d'acter les transformations profondes dans les rapports entre la France et ses territoires. Et pour conclure, en fait, à travers les exemples que je vous ai donnés, ces dates clés, on peut se demander, l'idée, c'était aussi de voir comment, malgré des ruptures juridiques ou des réglementations, les mentalités, de fait, sont dures à réformer. Et comment, pendant toute une période, entre 1944 et, je ne suis pas allé jusqu'à l'indépendance, mais jusqu'à l'indépendance, on aura de cesse d'essayer de remettre en place, en tout cas, des leviers pour réquisitionner de manière forcée les travailleurs, et de voir en fait qu'on est confronté, malgré des ruptures juridiques, à des mentalités qui ont du mal à évoluer et qui vont essayer tout le temps de contourner ces dispositions. Et puis, je vais m'arrêter là, et puis je pourrais essayer d'être un peu plus clair dans la discussion et de répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention.